c'est que Lacan, il va changer de borroméen généralisé en cours de route. Ça, c'est Lacan. Génial. À la fin de l'année, topologie et le temps, l'avant-dernière leçon, l'avant-avant-dernière leçon, dans les trois dernières leçons, enfin, la dernière, c'est Natio et moi qui parlons. Bon. Donc, c'est les deux leçons précédentes. À un moment donné, Lacan, il se pointe et il met au tableau un dessin qu'il a pris dans mes dessins à Louis-Trancourt. On était un jour à Miguel à Louis-Trancourt. Je lui avais montré comment je fabriquais les borroméens généralisés au sens strict, au sens brunien. Et puis là, il se pointe et il prend un dessin dans cette fabrique, dans cette espèce de fabrique. Il y avait plein d'objets, il y avait des objets, il y avait des qualités différentes. Il prend un des dessins et il le met au tableau. Enfin, inutile de vous dire que le week-end suivant, Souris, il a passé tout le week-end à fabriquer des nouveaux borroméens généralisés avec des cure-pipes. Vous savez, les trucs en métal avec du tissu autour, quoi, pour nettoyer les pipes. Ça s'appelle des chalumeaux. Il était assez surpris, parce qu'on était quand même tous sciés. On avait parlé pendant plusieurs mois de borroméens généralisés. C'était la guerre picropoline, mais enfin... C'était un des rares endroits où des lacaniens, ils ne se faisaient pas des vacheries. Hein, ça se passait assez bien. On arrivait quand même à discuter. Ce n'était pas le genre de fantaisie comme on fait habituellement, où on ne parle pas, ou bien c'est des couteaux. Bon, c'est quand même incroyable. Il y a matière à parler, il y a matière à commenter, à discuter. Ce serait intéressant d'organiser une discussion. Là, on pourrait parler de clinique, par exemple. Ce serait intéressant. Bon, toujours est-il que là, nous, on en était à notre pauvre malheureuse clinique des nœuds. C'était la nôtre. Les nœuds du symptôme. Bon, là-dessus, Lacan, il se pointe et il nous balance au tableau. Hop, nouveau dessin, le borroméen généralisé. J'en ai dessiné dans nœuds. Je l'ai dessiné.
Sans le définir.
Sans le définir, exactement. C'est à venir, mais je vais vous le dire, je vais vous donner la définition parce que j'ai quand même, depuis le temps, j'y réfléchis. J'ai fini par trouver. Et c'est comme ça qu'on va raccrocher avec la question de Charlet à propos de propre et impropre. Parce que c'est lié. Donc Lacan, il met au tableau un objet. Alors, je vous le dessine. Parce que depuis, j'ai fabriqué des hyper généralisés ou des fortement généralisés au sens de cette dernière version de Lacan. Ça, c'est cela qu'on va appeler les borroméens généralisés. Les autres, on va les appeler, ceux dont Lacan a commencé à parler au début de l'année, topologie du temps, on va les appeler bruniens. Ils s'appellent comme ça dans la littérature, en anglais, c'est une littérature en anglais, mais bon, il n'y a pas de littérature en français là-dessus, mais enfin bon, on les appelle bruniens de Debrunner. Ah oui, alors je finis sur ces bruniens de Debrunner. Il y a un article principe que Lacan devait connaître quand il a posé la question, que Souris connaissait, hein, et qui a un petit bijou, et c'est ça le prétexte de mon article qui est paru dans S1, vous verrez, j'ai fait la traduction de l'article principe sur le borroméen généralisé au sens de Brunner, des chaînes Brunier. C'est un article d'un monsieur qui s'appelle Péné, c'est un petit bijou. C'est pour ça que Forge me l'a redemandé, parce que c'est très joli, c'est ça le prétexte, c'est pas seulement pour raconter la chronique de cette histoire, c'est intéressant comme témoignage, la façon dont ça se passe. Mais surtout, ce qui est très joli, c'est l'article de Péné, c'est en anglais également, donc c'est très facile à traduire, ça fait deux pages. Voilà. Nous, on s'est pas regardé pendant plusieurs mois sur les borroméens au sens brunien. Debrunner, il a écrit un gros article qui est assez long sur la question, et Péné, il a écrit deux pages sur sa pop, vous voyez, et avec le groupe fondamental, c'est même pour ça que j'ai fait S1, pour rendre ça lisible. Avec la notion de groupe fondamental, il montre comment on peut fabriquer des borroméens généralisés bruniens au sens strict, comme ma fabrique à moi. Et moi, je ne le connaissais pas, je l'ai connu après. Donc, ce que j'ai découvert, c'est rien du tout. Ce n'est pas une découverte, puisque quelqu'un a déjà publié. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Par exemple, moi, je suis quand même très content d'avoir trouvé, parce que ça m'a fait un vent de fraîcheur, c'était délicieux. Je me suis dit, voilà, ça fait des années que j'étudie des borroméens avec Souris, Lacan, tout ça, bon, et puis voilà, tout à coup, je me retrouve comme un con, il faut tout recommencer à zéro. C'était bien la question de Lacan, c'était vachement bien. Maintenant que vous savez faire des borroméens, là, vous en tirez un, tous sont libres, vous savez le faire avec 2, 3, 4, 5 ronds, j'en profite pour répondre à une autre de vos questions. c'est que effectivement, c'est très facile de faire la chaîne borromée à 400 s'enquiquiner à faire ça. Avec, mais c'est pas avec ce que vous dites, c'est pas avec des deux trèfles comme vous le dites, vous faites un truc trop compliqué. Il y a un truc plus simple, c'est ce que je vous ai expliqué ici pour la leçon 1 du symptôme sur le faux trou. Hein? Le faux trou, c'est un objet que vous allez trouver dans la liste que je vous ai distribuée. Le faux trou, l'article principe du faux trou, la page de Lacan sur le faux trou, où il définit le faux trou, il en parle dès la première leçon, mais il a fait une page formidable là-dessus. Je vais vous dire la page. Bon, des faux trous, vous en trouvez plein dans le séminaire, hein, vous voyez, il y en a là dans cette page, c'est tout en rouge. Ces deux ronds disposés d'une certaine manière, qui, Lacan dit, en reprenant Sourit, que c'est torique et que c'est l'essence du nœud. Bon, la page...
133.
Oui, je vais vous la retrouver. Elle est à la fin d'une leçon. Attendez, c'est cette leçon-là. C'est à la fin d'une leçon. Et là, il y a une page extra. Oui, il reprend les choses sur le faux trou, Lacan, et il nous fait un petit topo très court, mais qui est parfait. Bon. Alors le faux trou, ça permet de faire des chaînes borroméennes avec autant de ronds qu'on veut. Ouais, je ne retrouve pas.
133.
Ce serait si loin que ça. Effectivement. Bravo. Alors voilà. C'est la leçon du 9 mars 76. Voilà, le faux trou, il est là. Et là, il y a un commentaire de Lacan qui fait la page, 17 pages de la page suivante, c'est 10 jours. Bon, c'est la page, c'est la leçon numéro 8 dans le symptôme, du 9 mars. Bon. Mais alors, maintenant, vous voyez dans ce que je vous ai distribué, hein, vous remarquerez que j'ai mis dans chaque leçon ce qu'on trouve comme objet topologique et comme question. Et ensuite, j'ai repris tous les mots que j'ai de ces objets, je les ai classés en comme une sorte d'index ou de glossaire. Et là, j'ai mis après les leçons où on trouve chaque mot. Ben vous remarquerez dans la deuxième page que presque tous les objets sont apparus dans les trois premières leçons. Donc Lacan, il va procéder comme ça. Il va mettre au tableau dans les trois premières leçons un paquet de trucs, et ensuite dans les autres leçons, il va revenir sur ces objets d'une manière aléatoire et il va préciser les choses, vous voyez, y compris comme ce faux trou. Bon. Donc le faux trou, c'est beaucoup mieux pour fabriquer des chaînes à 4, à 5, à 6. Ben ça, on savait très bien le faire avec Sourit au bout d'un moment, grâce à ce que je vous ai montré en juin. J'ai montré en juin comment on fait pour fabriquer des nœuds borroméens. Pas généralisé du tout, mais des nœuds borroméens avec 3 ronds, 4 ronds, 5 ronds, on peut le faire avec autant de ronds qu'on veut. Puis ça s'appelle les chaînes Fickéennes et je traite ça dans S1. Bon, c'est sur le groupe fondamental. Donc c'était très rafraîchissant le borroméen généralisé. Mais Lacan, il nous propose un autre borroméen généralisé. Donc c'est pas le brunien. Je vais vous le dessiner. Je vais vous montrer comment je le dessine. Alors, c'est une chaîne à 3. C'est une chaîne à 3. Rond. Évidemment, alors, vous voyez, ça va avoir la même qualité que celui-là. Ça va être borroméen au sens du nœud borroméen. Vous retirez un rond et les deux autres sont libres. Et vous retirez un quelconque des ronds et les deux autres sont libres. Bon. Et on peut fabriquer des borroméens généralisés à de nouvelles manières. Avec 4 ronds, 5 ronds aussi. Hein? Et puis, il y en a même d'autres que celui qui est montré par Lacan dans le séminaire La topologie et le temps. Alors, je vous montre celui qui est dans La topologie et le temps. Il est comme ça. Il y a une maille au milieu. Vous voyez, il y a une maille. Quand vous avez dessiné ça, vous avez fini. C'est ça qu'il faut dessiner pour commencer. Il faut mieux commencer par le centre, comme ça vous pouvez vous écarter. À partir du milieu de la figure, vous avez de la place. Si vous commencez par la périphérie, vous risquez de vous mélanger, ça se resserre trop au milieu. Bon, c'est un concept. Alors voilà. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai plusieurs possibilités, mais je fais ça comme ça, regardez. Ce celui-là qui passe en dessous, je le double. Et celui qui passe en dessous ici, je vais le doubler aussi. Vous voyez ? Là, j'ai créé deux croisements supplémentaires. Ces deux-là passent en dessous et ces deux-là passent en dessous. Vous voyez cette espèce de mouvement comme ça ? Là, je me fais comprendre. Comme ça, comme ça. Vous voyez ? Il y a une espèce de truc comme ça.
Si vous lisez ça, si votre regard commence à s'accommoder, c'est pas du tout la rétine qui s'accommode, c'est le regard. C'est-à-dire, si vous commencez à vous la raconter comme ça, vous allez voir que quoi ?
Ben, vous allez voir qu'il y a une chose qui va vous apparaître tout de suite. Regardez. Ici, vous avez ici quatre fils. Et là, vous avez quatre fils. Je retire la flèche que j'avais faite, qui est une petite. Vous avez quatre fils et quatre fils. Et bien là, dans ces quatre fils, vous allez les fermer tous les quatre, deux par deux. Mais vous allez venir glisser un rond ici et un rond là qui vont tenir avec ce rond médian. Là, tout ça, c'est un seul rond. Ça va former un seul rond, tout ce que j'ai dessiné jusqu'à maintenant. Alors, je pousse un peu mon rond. Voilà.
Bon, alors, maintenant, la question intéressante dans le nœud coronal généralisé, quand on le dessine, c'est comment est-ce qu'on va faire passer le rond qui est là et le rond qui est là. Ça va être symétrique, d'ailleurs. Mais comment on va les faire passer pour que ce soit borroméen ? Alors là, il faut le faire avec de la ficelle, il faut l'avoir vu fait, puis le redéfaire et le refaire. Bon, il faut y réfléchir. Je vous la raconte comme moi, j'ai fini par me la raconter. Pour arriver à le dessiner sans copier un dessin.
Regardez, si je ferme ça comme une boucle, je vais vous le dessiner à côté, je fais le même, vous voyez ? Voilà. L'objet que je vais obtenir, regardez, il va être comme ça. Là, j'ai pas mis les ronds qui vont tenir.
Ça, c'est un truc qui se défait. C'est un rond simple. C'est fait avec des boucles.
Vous voyez, il y a une boucle ici. Ici, il y a une maille. Ici, il y a une maille. Ici, il y a une maille. Ici, il y a une boucle. Ce que j'appelle boucle, c'est ça. Ce que j'appelle maille, c'est des trucs comme ça. Ou comme ça. Ça, c'est une maille alternée, ça, c'est une maille non alternée. Ici, vous avez une maille non alternée, ici, vous avez une maille non alternée. Donc, quand vous avez une maille non alternée, le fil ici, hop, il peut sortir. Il peut se rétracter, vous voyez. Ça ne coince pas. Quand c'est une maille alternée, ici, ça coince.
Faut un peu se faire comme ça des petites catégories. Chacun, en fait, vous vous retrouvez dans la même situation que Freud avec la clinique analytique, vous voyez. Il a pris des mots de la nosographie psychiatrique. Là, il dit, bon, ben, moi, je s'appelle ça comme ça, névrose d'angoisse, névrose narcissique, je bricole. Bon. C'est ça qui est bien, si vous voulez. C'est que ça vous met, si vous avez le goût, si vous n'avez pas besoin d'avoir une autorité qui vous dit comment il faut parler en vous donnant des coups de matraque sur la tête, vous vous sentez un peu, vous prenez du courage, vous remontez vos manches, et puis vous inventez votre petit vocabulaire. Il faut nommer les choses. Pour s'y retrouver, il faut les nommer. Ça, des fois, alors on nous dit, ah, mais il n'y a que le père qui peut nommer. Ou, ah. Alors, vous voyez, du coup, souris. Moi, j'ai appris ça avec souris. Pour arriver à faire de la topologie, il faut donner des noms aux choses parce qu'on rencontre plein de trucs bizarres. Et si on les nomme, ça aide à les reconnaître quand ils repassent. Puis une deuxième fois, une troisième fois, finalement, on finit. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui ont donné d'autres noms. Alors ensuite, on discute. On peut même abandonner son vocabulaire à la noix. Bon. Mais on ne s'est pas obligé. Parce que, vous voyez, moi, je crois que dans la matière de clinique, justement, Freud, il introduit quelque chose qu'il faut que nous préservions.
Il y a un nom, celui que peut-être pas joué en revanche.
Comment ?
Il y a un nom,
quoi, non, ça ?
En revanche.
Celui-là ?
Oui.
Bah, écoutez, celui-là, c'est une chaîne de Capron. Non alterné, parce qu'il y a une version entièrement alternée qui est olympique de ça. Donc vous avez bien vu que c'était pas du borroméen, mais que c'était quelque chose qui n'était pas olympique non plus. Regardez, celle que j'évoque qui est olympique, si elle vous intéresse, on peut lui donner un nom. Hein. Mais l'olympique, elle est comme ça. Regardez, l'olympique, c'est quand c'est entièrement alterné. Ça, c'est très intéressant, l'olympique, qui est fait sur le même modèle. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus.
Moi, je suis trop dans le tableau. Au-dessus, en dessous. Au-dessous, au-dessus. Voilà. Vous voyez, comme ça. Ça, c'est olympique. Parce que là, il y a un paquet d'enracinements. Il y a plein d'enracinements. C'est le même bâti. C'est le même bâti, mais voilà, celui-là, il passe là. Au-dessous, au-dessus. Voilà, et celui-là, il passe au-dessus, comme ça. Vous voyez ? Vous faites le même, mais entièrement alterné. Ben ça, c'est hyper olympique. Il y a plein d'enlacements. C'est une chaîne à quatre hyper paboroméenne. Alors, je reviens sur l'histoire du nom. Il faut donner des noms aux trucs. Il faut essayer de les isoler. Moi, grâce à Terrasson, j'ai inventé un instrument pour cerner les objets. Ça s'appelle le graphe de Terrasson. Je vais expliquer ça dans le nœud. C'est un très bon instrument pour essayer de faire comme dans la pierre de Rosette, vous voyez, pour Champollion, c'est-à-dire faire des cartouches autour des objets pour avoir des objets mieux définis. Parce que ça, c'est pas très bien défini, vous voyez. Ça flotte un peu dans le plan, dans le tableau. Oui, souris, quand il connaissait pas les gens, il leur donnait des noms. Moi, il m'a appelé Moustache. J'avais une moustache. Alors, dans les carnets de souris, on voit marqué Moustache, fume la pipe. Les souris faisaient comme ça, ils faisaient comme ça avec les gens et avec les objets topologiques. Mais c'est très pratique. Bon, alors évidemment, Tomé, il dit ah non, mais non, c'est quand même sacré, c'est le père. Et regardez, les logiciens, ils parlent tous du nom de baptême quand ils veulent parler du sobriquet. C'est quand même beaucoup plus intéressant que ce que raconte Kripke là, sur les chaînes infinies, la causalité jungienne à propos du nom propre. Dans Naming et Necessity, le truc de Kripke, c'est quand même, il fait tout un livre sur un truc qui est quand même, qui essaie de discuter les descriptifs de Russell. Il est évident que les descriptifs de Russell, c'est pas de la nomination. Alors qu'est-ce que c'est la nomination ?
En même temps, justement, je trouve ça très intéressant parce que c'est là-dessus que je finis le récit.
Oui, exactement. Et c'est ça qui est important.
Sur ce que fait Marc Kripke, on est en plein cœur
de. Oui. Donc, non, mais c'est très pratique, cette histoire de la nomination imaginaire, symbolique, réelle. Mais ce qui est au cœur de la nomination, c'est ce que les logiciens appellent nom de baptême, et c'est idiot parce qu'il donne une coloration religieuse à quelque chose qui répond à la question de Stuart Mill. Tout ça commence avec Stuart Mill. Est-ce que la ville de Dartmouth s'appellerait Dartmouth toujours si on détourne la Darth? Si la Darth se jette plus dans la mer à Dartmouth, est-ce que Dartmouth s'appelle encore Dartmouth? Ben oui. Bruges n'a pas changé de nom parce qu'il a été pris dans les sables. Enfin, bon, il se trouve que justement le nom, c'est comme les lettres, c'est comme les signifiants, les sons, les phonèmes, ça n'a aucune valeur intrinsèque. Et on peut appeler Dartmouth si on veut une ville, parce qu'elle est à la bouche de la Darth, mais si la Darth n'existe plus, ça continue à s'appeler Dartmouth.
Là,
comment ?
D'accord.
Oui, là-dessus, il est d'accord. Mais le problème, surtout, c'est qu'il cite la question de ce qu'il appelle le nom de baptême, comme tous ses collègues, dans une note, et il n'en parle plus après. Qu'est-ce que c'est le nom de baptême ? Le nom de baptême, c'est un chisté, c'est-à-dire un mot d'esprit. C'est les mots d'esprit de Freud. Qu'est-ce que c'est qu'un nom ? C'est un sobriquet. Un sobriquet, c'est... Regardez, c'est une caricature. Le nom propre, ce qui est intéressant, c'est la question du trait unaire, de la lisibilité. C'est la question du trait... Vous voyez, vous dites... Souris disait moustache pour moi, c'est pas terrible comme trait.
C'est une nomination imaginaire.
Oui, mais c'est lui, eux ils appellent ça comme ça, mais attention, regardez bien Lacan. Non, regardez bien ce que dit Lacan là-dessus, c'est pas si simple. Parce que c'est un fait d'énonciation, le mot d'esprit. Hein, c'est un fait d'énonciation. C'est le problème de la signification, c'est le problème de ce que les étrangers ne peuvent pas comprendre. Il faut être dans le groupe des amis qui vont désigner quelqu'un comme étant celui-là, on va l'appeler cheveux. Hein, ou Picard, ou je ne sais pas, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas forcément une métonymie. Ça devient beaucoup plus intéressant quand c'est une métaphore. C'est l'énonciation. C'est là. Le ressort du nom, c'est le ressort du dire. C'est le dire et la vérité du dire, c'est la fonction phallique qui fait le ressort de la possibilité du poème aussi bien que du nom. Donc, C'est la question intéressante, c'est pas le sens, c'est la signification, c'est-à-dire c'est l'incorporel des stoïciens. Voilà. Et ça, les logiciens, il n'y a pas de science de l'énonciation. Moi, je prétends qu'il n'y a pas de linguistique de l'énonciation et qu'il n'y aura jamais de science de l'énonciation. C'est pour ça que Lacan peut dire, dans Radiophonie,
L'inconscient, c'est la condition de la linguistique. Il faut d'abord régler ce problème. Tout ce qu'ils écrivent, les anglo-américains là-dessus, même avec les performatifs et tout ça, c'est zéro, zéro. Ils parlent du même problème que Freud, qu'est-ce que c'est que la vérité, et ils vont dans le mur. Freud, lui, il découvre en 23 la phase phallique. Et tout le monde lui tombe dessus. Les dames qui disent que c'est un machiste, et Jones qui essaie de le défendre, qui dit le contraire. Hein. Bon, vous voyez, Freud dit bien, les petits garçons et les filles, ils ne sont pas nés garçons et filles, ils ne sont pas nés des chaussons roses et des chaussons bleus. Et c'est parce que, et c'est même pas parce qu'on leur donne, comme dit la dame Beauvoir, c'est même pas parce qu'on leur donne des voitures de pompiers ou des petites poupées qu'ils deviennent garçons ou filles. Ils doivent affronter cette question du malentendu des parents qui parlent et qui ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent. Hein, ils ne s'entendent pas parler. Et que cette énonciation, ça a quelque chose d'imaginaire. Alors voilà l'imaginaire. De la parade, vous voyez, il y a quelque chose d'imaginaire, mais c'est là, mais c'est plus du tout. Il y a des portes dans notre territoire. C'est plus du tout le territoire animal. C'est plus de l'éthologie. Nous sommes dans le langage. C'est la fonction imaginaire du phallus symbolique. Et c'est ça la domination. C'est pris dans cette fonction imaginaire du phallus symbolique. Ça veut dire que si le mot d'esprit est réussi, ben le type, il peut plus se défaire de l'ombre qu'il a attachée à ses chaussettes. Il marche comme ça partout. Vous voyez, c'est comme moi. Moi, je suis vapro, le vaporeux, l'escroc qui vend les dessins de Lacan. Je suis devenu quelqu'un d'horrible. Vous voyez, mais je sais, de toute façon, je suis voué à être. Ils vont m'écarteler, de toute façon. Mais qu'est-ce que vous voulez c'est parce que je suis peut-être pas assez malin, mais moi, je pense qu'il ne faut pas être malin. Le malin, moi, je n'aime pas le malin. Je préfère les anges, les saints. Et les saints, c'est des gens qui ne sont pas très recommandables non plus, vous voyez. Moi, je ne suis pas recommandable du tout. Hein. Ça me fait rire quand il y a des mecs qui viennent me voir, mais ah oui, moi, je vais faire une analyse parce que dans l'hôpital où je travaille, tout le monde fait une analyse, alors je viens vous voir pour faire une analyse parce que faut faire une analyse. Je dis, vous êtes sûr que vous voulez faire une analyse avec moi? Parce que si vous leur dites que vous n'allez pas garder votre poste, il faut mieux aller voir quelqu'un d'autre. Je suis honnête, vous voyez. Bon, alors là-dessus, je reprends à propos de comment nommer ça. Regardez, je vais vous montrer ce qui se passe. Là, maintenant, avec ce dessin et ce dessin, je vais vous montrer comment je décide de la manière de faire passer là-dedans un rond. J'ai un rond ici, il faut que je le fasse passer dans ces trous, mais j'ai un autre rond à mettre ici que je dois faire passer dans ces trous. Regardez comment je raisonne. Si je retire le rond qui est ici, qu'est-ce qui va se passer? Cette langue-là, elle va se rétracter. Vous voyez? Ça va se rétracter par là. D'accord? Et vous allez avoir le fil ici. Il passe au-dessus, il ne passera plus deux fois en dessous. Tout le monde le voit, là. Vous voyez? Il va passer au-dessus, il ne passera plus deux fois en dessous. Il va passer directement là. Donc ce fil, il passe au-dessus de celui-là. Hein? Et ça ne doit plus tenir celui-ci que je vais rajouter. Regardez. Est-ce que je vais le faire passer comment, celui-là? Eh bien, celui-là, je vais me débrouiller pour que, comme celui-là passe en dessous, cette partie du nœud, qui est là, cette partie du nœud, vous voyez, puisqu'elle passe en dessous ici et que là, le dessous, il restera, je ne vais pas faire tourner cette partie du nœud par au-dessus de mon tableau, mais par en dessous. Donc, je vais le dessiner comme ça, regardez. Je le fais passer, il passe en dessous ici, donc je le fais passer en dessous ici, et au-dessus ici. Voilà. Et ici, comme il passe en dessous, c'est celui-là que je vais faire passer en dessous et celui-là au-dessus. Vous voyez? Et bien ça va faire du Borovian. Regardez, si vous rétractez ce fil, vous voyez, le fil qui passe là, il va passer deux fois au-dessus, il va passer au-dessus, en dessous, au-dessus. Et bien cette partie du nœud, ça se défait. Il n'y a plus rien qui coince. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ça se voit? Oui, je suis malin. Ben, je passe mon temps à regarder ça et à étudier. Hein. Donc, malade. Bon, alors maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Regardez, vous pouvez deviner que ici, ça passe au-dessus. Donc, comme ça passe en dessous, c'est ça que je vais faire passer en dessous. Et là, au-dessus. Et je vais avoir le même phénomène ici.
Ici, ça va passer. Alors, comme celui-là, voyez-vous, il passe en dessous, en dessous, en dessous. Si je retire ce rond, cette langue-là, tout ça, ça se rétracte. Donc, hop, je passe en dessous. Ça, ça passe au-dessus, en dessous. Là, ça va passer en dessous et au-dessus. Voilà. Et ça, ça va. Voilà le moyen généralisé de nouvelle manière. Il y a combien de croisements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 croisements. Et il n'est pas entièrement alterné. Hein, vous remarquerez, il y a 3, 4, 5, il y a 10 croisements de même torsion et il y a 2 croisements ici qui ne sont pas alternés avec les autres. Vous voyez, c'est alterné, c'est-à-dire en dessous, au-dessus, et puis là, hop, une deuxième fois au-dessus. Au-dessus, au-dessus. En dessous, en dessous. Mais à partir de là, c'est en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Ah, tiens, 2 fois au-dessus. Donc ces deux-là, bon, ça, j'explique tout ça, c'est dans nœud, hein. Comment se débrouiller, comment apprendre à compter freudien. C'est assez marrant à apprendre à compter là-dedans. Bon, voilà le borroméen généralisé, nouvelle manière. Bon, alors, qu'est-ce qu'il caractérise? Voilà votre question. Eh bien, ce qu'il caractérise, je vais vous dire, j'ai réussi à lui trouver un trait distinctif. Et... Bon, Lacan, quand il le met au tableau, tout de suite, il essaye de le défaire par homotopie. Pas si vous remarquez, il dit il faut faire une homotopie sur un de ces deux points, il faut inverser les croisements là. C'est vrai que si vous avez un croisement, si vous avez une maille alternée comme ça, si vous inversez un croisement, vous allez avoir une maille non alternée comme ça. Il y a deux choses qui se défont, qui donnent l'impression de se défaire. La maille au milieu, si vous inversez un croisement, ça se défait la maille. Mais manque de peau, c'est ce que je fais remarquer à Lacan, je me suis encore fait mal voir, pof. Il est aucun esprit scientifique. Hein. Lacan, lui, il trouve ça très bien qu'on lui fasse remarquer qu'il se bourrait. Si vous faites un changement sur un de ces deux croisements, eh ben, ça continue à être emmêlé dans les deux ronds d'extrémité. Donc, ça ne suffit pas de faire une homotopie pour défaire le borroméen généralisé. Mais c'est vrai que, contrairement au borroméen prototype, on peut défaire celui-là par des homotopies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en faisant à la hauteur de croisement propre, voilà le mot propre, hein, c'est-à-dire un fil qui se croise avec lui-même, c'est des croisements propres. Je ne parle plus seulement des nœuds propres et des nœuds impropres, maintenant je parle des croisements propres et impropres. Hein. Alors regardez, ici vous avez 2 croisements propres, 3 croisements propres, 4 croisements propres, et ça c'est des croisements impropres. Vous arrivez à lire, c'est 2 fils différents qui se croisent ici, à chaque fois, alors que ici c'est toujours le même fil qui fait un tour et qui recroise lui-même, d'accord? Croisement propre. Les homotopies, c'est quand on inverse des croisements propres, et là, ça se défait, d'accord? Mais il ne faut pas défaire les croisements impropres, parce que ce n'est pas de l'homotopie. Moi, je vous raconte encore une histoire avant qu'on finisse, très rapidement. Je ne comprenais rien à l'homotopie, je croyais avoir compris, parce que j'avais vu que Souris, il inversait des croisements, j'avais cru comprendre ce que c'était que l'homotopie. Et un jour, Gérard Haddad lui pose une question qui n'avait rien à voir, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec le public, avec chacun, avec tous ceux qui veulent poser des questions, parce que Gérard Haddad, il pose une question à Souris qui n'avait rien à voir avec l'homotopie, rien de tout ça. Et c'est quand Souris lui répond qu'il est amené à préciser la définition de l'homotopie, et c'est à ce moment-là que j'ai pigé ce que c'était que l'homotopie. Vous voyez ? C'est incroyable, on a beau essayer de définir des choses, de faire un travail assez propre. Bon. Parce qu'on a un petit souci comme ça de ne pas faire plus compliqué quand c'est déjà assez compliqué. Hein, je ne prétends pas que ça va être tout simple. Et de toute façon, on a forcément... c'est pour ça que les questions sont bienvenues. Les questions sont bienvenues parce que chacun peut poser des questions qui n'intéressent pas les autres, mais n'empêche que quand on répond à une question, on n'est jamais sûr, on n'est jamais à l'abri de ne pas dire quelque chose qui va répondre à une autre question de quelqu'un d'autre, vous voyez.
Bon, c'est ça comme ça que c'est intéressant. Donc moi, je suis de l'avis qu'il faut consacrer du temps à laisser poser des questions. Mais il ne faut pas tomber dans le pinaillage. C'est pour ça que là, je fais un peu dans la fonction imaginaire du phallus, hein, et puis que je ne laisse pas parler tout le monde. Bon, parce que c'est ça la question de la parole. Alors on va arrêter là, mais qu'est-ce que je vais vous dire quand même comment se spécifie le borroméen généralisé. C'est que le borroméen généralisé, c'est un nœud qui se défait comme le borroméen généralisé prototypique. En retirant un rond, les deux autres sont libres. Quand on retire un quelconque, c'est borroméen. Ça, ça ne change pas. Ce n'est pas borroméen au sens brunien. Mais en plus, ça se défait par différents moyens. Alors, voilà. Le borroméen, ici, qui n'est pas généralisé, c'est un nœud borroméen qui ne se défait que par des mouvements impropres. Regardez, au niveau des croisements impropres et des croisements propres, il y a une différence. Dans le nœud, vous allez trouver maintenant trois sortes de mouvements. J'ai inventé un mouvement, pour rendre compte de tout ça, qui s'appelle le mouvement nœud. Bon, il y a des Japonais qui ont inventé ça, qui ont publié ça en 90. Quand moi je l'ai trouvé, eux, ils l'ont publié. C'est un truc qui existe dans la littérature, ça s'appelle Unknotting Movement. Unknotting Movement. Bon. Et je repère trois types. Le mouvement nœud, il y a le mouvement nœud propre, où ça ne concerne que des croisements propres. Hybride, ça concerne des croisements propres et des croisements impropres, et impropre. Bon, je ne vais pas appeler ça purement propre ou purement impropre. Et bien voilà, vous voyez, les borroméens généralisés. Celui-là, il se défait d'une manière impropre, par des mouvements impropres et par des mouvements hybrides. Et j'ai fabriqué un hyper généralisé qui se défait par les impropres, les hybrides et les propres. Il se défait par toutes les manières. On va l'appeler le plus fortement généralisé. D'accord ? Alors on arrête là pour aujourd'hui, parce que c'est l'heure, et je vous remercie.